Transistor.
Un instant, il y aura l'hélium de l'actu.
Transistor. Web.
On est le 2 mars et aujourd'hui nous sommes matinaux sur Transistor puisqu'il est 10h10. Après Laurent Bozetti et Loïc Graber, c'est Sylvie Tomic, j'espère qu'on prononce comme ça votre nom de famille.
Oui, moi je dis Tomic, mais...
Tomic, que nous recevons pour cette série d'entretiens politiques produits en pleine période de campagne pour les municipales et les métropolitaines à Lyon et dans la région lyonnaise, puisqu'on est à maintenant moins de 2 semaines du premier tour. Bon, première question, comment ça se passe? Comment avance votre campagne? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de ce qui s'est passé jusque-là?
Bonjour. Alors, au niveau de la campagne, effectivement, on constate une bonne dynamique. Alors, je vais refaire effectivement un petit peu la genèse. Donc, moi, je conduis la liste de la gauche unie, donc dans le 7e arrondissement. Donc, c'est vraiment une liste de rassemblement des partis de gauche. Alors, je vais essayer de tous les citer parce que finalement, il y en a pas mal. Donc, le Parti socialiste, le Parti communiste, Génération... Place publique, Nouvelle Donne, Manufacture de la Cité et une partie des Insoumis aussi qui nous ont rejoints.
D'accord, et vous faites partie des générations si je m'abuse.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, oui, moi d'accord. Je fais partie du mouvement Génération. Oui.
Et alors comment ça s'est passé? Comment avez-vous été sélectionné? Quel a été le mode de sélection des candidates et candidats dans chaque arrondissement lyonnais et puis pour les municipales, les métropolitaines, dans les circonscriptions?
Alors en fait, on a démarré donc ce dialogue entre tous ces partis au printemps, enfin après les élections européennes, on va dire. Donc on s'est rencontrés, on a vraiment échangé sur nos projets, puisqu'on avait tous travaillé sur des projets pour les élections municipales et métropolitaines, alors certains plus ou moins avancés que d'autres, mais la première étape, ça a déjà été de confronter nos projets et de constater qu'il y avait énormément de convergences. Alors bien sûr, des différences, des nuances, etc., sinon il n'y aurait pas des partis différents. Voilà, on a tous des sensibilités différentes, on ne met pas forcément le curseur, les priorités sur les mêmes axes, mais voilà, on a constaté de larges convergences, donc on s'est dit voilà, qu'on allait présenter des listes communes, parce que pour nous, c'était notre responsabilité de le faire, en fait. Ça aurait été complètement... inconscient, irresponsable, de partir en ordre dispersé pour ces élections. Si on veut vraiment se donner les moyens de gagner et de changer la vie des gens, de changer le quotidien des habitants, il fallait s'unir. Mais ça a été un processus long. Voilà, ça a pris pas mal de temps. Les discussions ont encore duré jusqu'à la fin de l'année dernière. Et une fois voilà, qu'on a constaté ce rassemblement sur le projet, après, il a fallu s'organiser effectivement sur la composition des listes. Et donc ça, effectivement, ça a été un travail qu'on a fait tous ensemble pour dire, par exemple, dans le 7e arrondissement, la première de liste, ça sera Génération, le deuxième, c'est quelqu'un du Parti communiste, etc. Donc ça s'est décidé comme ça, ça a été des discussions, on a essayé de faire les choses de manière équilibrée, qui ait du sens, etc. Alors si je prends mon cas personnel, après, moi, c'est, après ça s'est produit un petit peu de la même manière dans tous les partis. Au sein de Génération, à l'automne, on a eu un processus interne de désignation des candidats. Donc moi, je m'étais proposée pour être candidate à l'élection municipale et aussi à l'élection métropolitaine, puisque je suis aussi sur la liste donc de la circonscription Lyon-Sud qui correspond au périmètre du 7e. Et on a fait des élections internes, voilà. Donc ça s'est passé comme ça. À chaque fois, il y a eu des élections, les militants étaient partie prenante de ces choix-là.
Bon, on va revenir sur les unions et les divisions qui, ont fait, qui font maintenant qu'il y a plus de 3 listes différentes qui ont des chances... véritable chance de se faire élire pour ces municipales et ces métropolitaines. Mais avant ça, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours personnel. Vous êtes d'abord passé par Sciences Po Lyon, puis l'ENSIB, école où celles et ceux qui administrent nos bibliothèques sont formés. Et puis vous vous êtes réorienté. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours?
Oui. Alors en plus, il y a encore une étape. Après Sciences Po Lyon, j'ai commencé mon premier métier, ça a été inspectrice du travail. J'ai démarré par ça, donc j'étais affectée en Picardie, donc à Amiens. Et alors ça a été donc je contrôlais le respect du droit du travail dans le secteur géographique dont j'avais la charge, donc ça faisait 110 entreprises. C'est un métier qui est passionnant, qui est vraiment utile, qui est très riche, mais par contre qui est très difficile à accomplir correctement parce qu'il y a un sous-effectif énorme. Alors déjà moi à l'époque quand j'y travaillais, et ça s'est encore aggravé depuis, et on n'a pas les moyens de faire du travail correct. Donc moi j'ai trouvé ça très très frustrant, très difficile du coup. Donc c'est pour ça que je me suis réorientée. Donc effectivement je suis partie dans les bibliothèques et j'ai passé le concours de conservateur des bibliothèques et du coup j'ai fait une formation à l'ENSIB et j'ai travaillé à Valence cette fois dans la Drôme à la médiathèque départementale. Donc ça, c'est pas forcément très connu de tout le monde. En fait, c'est la médiathèque départementale. Son rôle, c'est d'accompagner les bibliothèques des petites communes du département. Voilà. Donc j'ai été directrice adjointe et ensuite directrice de cette bibliothèque. Alors la même chose, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que la lecture et l'univers de la culture en général, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné, et quelque chose voilà, qui m'apporte beaucoup et que je voulais faire partager. Mais moi, ce qui me frustrait beaucoup, c'est que je voyais pas du tout le public, je voyais pas du tout les usagers, j'étais dans mon bureau, voilà. Et ça, c'était quand même une grosse frustration. Donc là, effectivement, j'ai à nouveau changé, et pour quelque chose de radicalement différent, puisque je suis caviste actuellement. Donc j'ai pris une disponibilité de la fonction publique, et je me suis formée. Et puis voilà, maintenant je vends du vin, des spiritueux, etc. Et là, j'ai le contact avec les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est le contact avec la clientèle, c'est de faire partager, de faire découvrir, voilà, des produits qui, pour moi, sont... Alors, on trouve de tout, hein, bien sûr, dans le vin, mais des produits qui sont le reflet du travail d'un vigneron qui est attaché à ses vignes, à son terroir, à son... Les vignerons, ils sont passionnants à entendre. Hein, quand on les lance, quand ils parlent de leur métier, ils sont passionnants. Et c'est ça aussi, moi, que j'essaye de retransmettre aux clients, pour que leur dire, c'est pas juste une bouteille. Alors, bien sûr, il y a le plaisir de la déguster, mais il y a aussi une histoire derrière. Il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé dessus. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment tout cet aspect-là de partage et d'échange, moi, qui me plaît beaucoup.
Alors, une vino veritas, comme on dit, mais pas seulement parce que dans l'aspect qu'on pourrait imaginer, mais aussi parce que Lyon est une région viticole, mmh. Lyon est une région où la gastronomie et le vin ont une importance
folle.
Tout à fait,
oui.
Et puis, c'est un secteur qui se retrouve confronté maintenant à des problématiques sociales et puis environnementales. Est-ce que vous pourriez tracer peut-être un lien entre ce métier que vous faites et votre candidature ?
Alors effectivement, il y a deux grosses problématiques, je dirais, dans le monde viticole aujourd'hui. Alors au niveau social, c'est notamment les prix des parcelles qui ont flambé. Donc notamment, je pense à la Bourgogne, où c'est devenu hors de prix. Et une des difficultés des vignerons qui veulent prendre leur retraite, c'est que ça coûte trop cher à leurs enfants de reprendre. Donc il y en a de plus en plus qui finalement se retrouvent à vendre leurs parcelles à des fonds de pension étrangers, etc. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on perd vraiment ce côté de travail de vigneron paysan, hein, souvent comme ils se définissent, ou vraiment... voilà, donc là-dessus, il y a un gros, gros problème. Il y a des difficultés d'installation pour les nouveaux vignerons, les jeunes vignerons, qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément le capital avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces professions, alors que ce soit vigneron ou caviste, qui ne sont pas du tout issus du milieu du vin. Souvent, ce sont des reconversions professionnelles aussi. Et il y a vraiment un barrage financier à l'installation. Donc ça, c'est un problème. Et au niveau écologique, le réchauffement climatique, les vignerons, ils en ressentent les effets, mais alors à plein, hein, parce que chaque année, les vendanges ont lieu de plus en plus tôt, vu les températures élevées. C'est de plus en plus compliqué d'arriver à récolter les raisins pas trop mûrs, pas trop, etc., d'avoir des degrés d'alcool pas trop élevés dans le vin. Voilà. Donc il y a toute une réflexion là-dessus, sur la plantation de nouveaux cépages, du coup mieux adaptés à ces climats-là, etc. Bon. Donc c'est vraiment, ils le ressentent directement. Et du coup, alors pour faire le lien, alors c'est un lien un peu tortueux, mais je vais y arriver.
Finalement, oui, voilà. Ça,
sur le coût justement des parcelles, on peut faire quand même le parallèle avec à Lyon le prix des loyers et le prix de l'achat au mètre carré. Notamment, le prix des loyers a vraiment vraiment explosé ces dernières années. Donc ça devient vraiment un frein à l'installation des gens, alors que ce soit des jeunes, des familles, voilà. Ça devient très très compliqué de se loger là où on a envie d'être. Enfin, voilà. Du coup, c'est souvent un choix, on se reporte là où on peut aller parce que les loyers sont plus accessibles. Souvent, c'est loin de son travail, donc ça rajoute des trajets, etc. Donc ça participe aussi à cet engorgement qu'on peut constater sur la métropole. Donc nous, ce qu'on propose par rapport à ça, c'est l'encadrement des loyers. Donc l'encadrement des loyers, ça consiste en fait, vous calculez une moyenne, un loyer médian en fonction des quartiers, des types de logements, et votre loyer ne peut pas varier de 20% de plus ou 30% en dessous de ce loyer médian. Donc ça ne va pas faire baisser les loyers, malheureusement, mais ça contient la hausse. Voilà, parce que là, on sait vraiment, il y a vraiment une envolée. Ça a été mis en place à Paris pendant 2 ans, avant que ce soit retoqué pour des raisons administratives, et puis ça a été à nouveau remis en place depuis l'été, là. On a constaté, voilà, que ça avait permis quand même de réduire cet accroissement complètement fou des loyers. Nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est, alors ça c'est plus au niveau de la métropole, c'est avoir un outil de maîtrise du foncier plus efficace que ce qui existe actuellement, puisqu'il y en a déjà un, mais nous on voudrait renforcer le budget et renforcer ses prérogatives pour que la métropole aussi puisse beaucoup plus maîtriser ce qui se passe au niveau de son urbanisme. Et notamment, par exemple, proposer des... Alors ce qui se fait déjà un petit peu, mais l'amplifier, proposer des opérations où le foncier reste propriété de la métropole et les ménages qui achètent un appartement, par exemple, n'achètent que l'appartement, mais pas le terrain. Donc ça fait beaucoup baisser, évidemment, le prix du mètre carré à l'achat. Donc ça, c'est notre manière aussi de permettre aux nouveaux arrivants de se loger plus facilement. Et puis enfin, il y a un programme de construction de logements sociaux, hein, qui est assez, assez ambitieux, puisque c'est en gros 6000 logements par an sur la métropole, dont 2400 à Lyon. Sachant que par exemple, voilà, sur le 7e, alors il y en a bien sûr, hein, mais on n'est pas tout à fait à 20%. Sachant que la loi c'est 25, donc on a encore du retard à rattraper, donc ça c'est vraiment aussi une de nos priorités, toujours dans l'idée de rendre le logement plus accessible à tous.
Ouais, un retard à rattraper en particulier dans le quartier de la Guillotière, puisque apparemment, on avait discuté des mêmes thématiques avec Loïc Graber, le candidat pour la liste Respiration menée par Georges Kepenekian, qui nous avait expliqué, puisqu'il a été directeur de l'urbanisme pour le 7e, qu'il y avait vraiment, le quartier de Gerland par exemple, qui s'urbanise assez vite, a pu faire respecter par le caractère nouveau du bâti les pourcentages de logements sociaux qui sont imposés par cette loi qui s'appelle la loi SRU. La Guillotière, par contre, ne respecte pas du tout ces pourcentages, et de plus, les habitants et habitantes les plus pauvres font face à un rythme presque hebdomadaire des évincements. Ces personnes-là sont évincées. Il y a des collectifs comme la Guillotière n'est pas à vendre qui essayent de s'organiser pour que les expulsions ne soient pas si régulières que ça. La trêve hivernale n'a pas été respectée dans certains cas. Est-ce qu'un encadrement des loyers, c'est assez quand on fait face à ce genre d'urgence ?
Alors c'est ce que je vous disais, l'encadrement des loyers c'est un outil, c'est pas l'outil miraculeux qui va par exemple faire baisser les loyers. C'est pour ça que je vous parlais aussi de la construction de logements sociaux. Alors effectivement à Gerland c'est plus facile dans le cadre d'opérations nouvelles de faire respecter. Nous on voudrait aller au-delà, dans toutes les constructions nouvelles, nous on voudrait imposer dans le cahier des charges 30% de logements sociaux. Bah, pour justement, voilà, si on se contente de dire 25%, voilà, on court un peu après le retard, mais donc 30% déjà, ça rééquilibre davantage. Et pour revenir donc sur le quartier de la Guillotière cette fois, effectivement, alors la problématique va être un petit peu différente. Sur tout ce qui est expulsion, etc., nous, ça, c'est évident que c'est quelque chose qu'on veut vraiment, alors déjà, faire respecter la trêve hivernale. Et être beaucoup plus dans un travail de prévention en amont pour justement empêcher qu'on en arrive à ces extrémités-là. Et aussi, voilà, c'est vraiment un travail d'accompagnement sur le paiement des loyers, sur le paiement des impayés, que ce soit l'électricité, l'eau. Voilà, c'est vraiment un travail qu'on doit faire en amont. Et d'ailleurs, alors, par rapport à cela, nous, on propose aussi des mesures, alors qui sont plus des mesures de fond, pour empêcher aussi qu'on en arrive à des situations dramatiques. C'est par exemple au niveau de l'eau, nous on voudrait que ce soit repris directement en régie directe par la puissance publique, puisqu'actuellement c'est délégué à un prestataire privé. Et on voudrait instaurer notamment les premiers mètres cubes gratuits. Donc pour permettre, voilà, on considère que l'eau c'est un bien commun, c'est un droit pour tout le monde, un minimum, et que donc que ce soit gratuit. Et nous on veut engager aussi un travail plus conséquent de rénovation énergétique des logements. Donc ça a deux vertus évidemment, d'une part écologique puisque ça baisse beaucoup la production d'énergie, voilà, on économise l'énergie, et bien sûr ça a un intérêt social puisque ça réduit la facture des gens, facture d'électricité, etc. Donc c'est aussi par des mesures de fond qu'on empêche que les gens en arrivent à des situations qui sont complètement dramatiques. Sur les logements sociaux, il y a des projets de construction à la Guillotière. Hein. Je pense par exemple à ce qui est en projet sur l'îlot Mazagran ou même la parcelle juste à côté. Il y a des projets qui se font. La problématique sur Mazagran, par exemple, c'est, il y en a plusieurs qui se mêlent, mais c'est comment on discute de ces projets-là avec les habitants. Puisqu'effectivement, on part pas de rien, on part d'une histoire, on part d'un bâti qui existe, on part de projets qui avaient existé, comme le projet de la trame verte qui va de l'avenue Félix Faure jusqu'au garage Citroën. Ça, c'est un projet qui existe depuis les années 40, je crois. Voilà, donc comment est-ce qu'on tient compte de tout ça, de cette histoire, de l'investissement que les habitants ont dans le quartier, et comment on dialogue avec eux ? Et ça, c'est primordial dans des opérations comme ça, pour qu'on garde le sens commun et puis pour favoriser la participation des gens, parce que c'est quand même eux qui vivent sur place et qui ont l'usage des lieux et qui ont un avis souvent très éclairé parce qu'ils le vivent au quotidien.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre ancrage dans le 7e ? Est-ce que vous habitez dans le 7e ?
Alors oui, j'habite dans le 7e. Alors en fait, moi, je suis arrivée à Lyon en 95. Voilà, je ne suis pas lyonnaise d'origine, donc je suis arrivée pour mes études, hein, effectivement. Et j'ai habité dans le 7e. Alors après, j'ai pas mal déménagé, donc pour raisons professionnelles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais je suis régulièrement revenue à Lyon. Donc en fait, je m'étais amusée à calculer, ça fait 13 ans au final que j'ai passé sur Lyon. Donc j'ai habité dans différents arrondissements aussi, enfin je connais assez bien la ville par ailleurs. Et donc je suis revenue en 2015 et je me suis installée dans le 7e. Voilà, donc là, ça fait 4 ans et demi que j'y suis. J'étais très contente de m'installer à nouveau dans le 7e. Et par contre, j'ai vraiment vu le changement qu'il y avait eu en l'espace d'une dizaine d'années sur cet arrondissement qui est toujours très, très riche, très dynamique, très divers aussi, très cosmopolite, notamment à la Guillotière. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse. Mais justement, voilà, les prix qui s'envolent, une espèce aussi parfois un peu d'uniformisation, de standardisation qui se fait, etc. Enfin, j'ai vraiment eu ce recul-là, effectivement, de voir ces évolutions, dont certaines ne sont pas toutes positives.
Justement, votre tête de liste est chercheur en sciences politiques à Sciences Po Lyon, qui se trouve dans le 7e, si je ne m'abuse.
Oui.
Et qui a aussi fait partie pendant un long moment du GRAM, du groupe de réflexion d'action métropolitaine, en compagnie de Nathalie Perrin-Gilbert, mais aussi d'autres personnes qui font maintenant partie de la liste des Verts. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la formation du GRAM ? Pourquoi cette explosion dans 3 listes différentes, ou même peut-être 4, si on considère ceux qui se sont retrouvés chez Képenekian ?
Alors effectivement, y a eu une scission au sein du GRAM, alors qui est bien antérieure, hein, évidemment, aux élections là, qui nous occupent actuellement, avec la création donc, de la Manufacture de la Cité, donc, qui effectivement est une émanation du GRAM. Alors Renaud Père vous en parlerait mieux que moi, puisque c'est lui qui a été partie prenante de ça. Voilà, moi. Mais il y a une manière de travailler collectivement qui n'était plus assurée au sein du GRAM. Voilà, je vais le dire comme ça, visiblement. Voilà.
Vous n'en faisiez pas partie.
Ah non, moi j'ai jamais été au GRAM. Non, moi en fait, j'étais pas du tout encartée politiquement. J'étais militante associative, représentante du personnel. La première fois que j'ai pris ma carte dans un parti politique, moi, c'est en 2017, au moment de la création du mouvement Génération par Benoît Hamon. Donc voilà, moi j'étais pas du tout au GRAM. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudrait poser la question à Renaud Père directement. Hein, voilà. Après, pour vous dire pourquoi actuellement on a 3, voire 4 listes, alors je nuancerai le voire 4 tout à l'heure. On a eu des discussions, nous, avec les Verts, hein, bien sûr, à l'automne, et avec le GRAM également, enfin avec Lyon en commun. Avec les Verts, il y avait des convergences, évidemment, sur le projet, avec des nuances aussi. Ils ont souhaité présenter des listes propres à l'écologie, des listes écologistes au premier tour. Ça a été leur souhait. Donc bon, nous on peut, moi personnellement je le regrette un peu, mais après je pense que voilà, on va à nouveau dialoguer en vue du second tour. Ça paraît logique, voilà, et c'est souhaitable je pense.
Oui, parce que venons-en au fait, parlons des sondages et parlons de la situation dans laquelle se trouve votre liste. Vous êtes crédité à l'échelle de Lyon de 4% pour l'instant des intentions de vote, évidemment. Il ne faut pas se fier si fidèlement que ça au sondage, surtout que dans le 7e, on sait que la base électorale n'est pas exactement la même que dans certains autres arrondissements. Mais on voit évidemment, et je pose la question à tous les candidats, qu'il n'y a pas de dominance particulière d'un parti. Déjà, il y a deux partis en tête, il y a LREM et puis il y a les Verts. Ensuite, on retrouve très vite les Républicains, on retrouve très vite la liste de Kepenekian, on retrouve, et puis on retrouve la liste de Nathalie Perrin-Gilbert. Et puis encore en dessous, on retrouve votre liste. Mmh. La question va très vite se poser d'avec qui vous allez gouverner au second tour, avec qui vous allez essayer de faire des alliances, avec qui... Bon, j'imagine que les discussions ont déjà commencé, mais c'est important de poser cette question puisqu'on est à moins de 2 semaines du premier tour maintenant.
Oui, 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 tout à fait. Alors déjà, on va quand même laisser le premier tour se dérouler. Et pour répondre à votre remarque sur les sondages, moi je suis très prudente avec les sondages, évidemment. Enfin, tout le monde vous répond ça, mais je pense que c'est vrai parce qu'à chaque élection, on a des surprises. Ouais. Il y a toujours la surprise, le parti, le candidat qui fait beaucoup plus ou beaucoup moins que ce que les sondages lui prédisaient. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut rester très prudent. Effectivement, le sondage qui est sorti hier, on est à 4%. Quelques jours avant, on était à 8%. On tournait plutôt autour de 8%, on était un peu remonté. Là, la dégringolade d'un coup à 4%, bon, ça me paraît assez étonnant, quoi, voilà. Donc honnêtement, j'y accorde pas plus d'importance que ça, très franchement. Sur le second tour, donc je vous ai effectivement parlé des Verts où de toute façon il y a des proximités indéniables entre nos programmes, entre nos projets, même s'il y a des différences et que ça il faudra qu'on en discute bien évidemment, mais voilà, il y a vraiment des proximités fortes. Sur les listes menées par, rassemblées derrière Georges Kepenekian, là par contre c'est évident que pour nous il n'y aura pas d'alliance possible, que ce soit avec les listes de La République En Marche officielle ou La République En Marche dissidente ou officieuse, on l'appelle comme on voudra, pour nous c'est la même chose, voilà, on ne fera pas de fusion avec eux.
C'est d'autant plus intéressant que... À la fin de mon interview avec Loïc Graber, quand je lui avais posé la question, il ne mettait pas sur le côté l'idée d'une convergence possible avec les Verts ou avec d'autres listes de la gauche, en nous expliquant que c'était là où il trouvait plus de proximité qu'avec La République En Marche. Alors évidemment, c'est une histoire de perception, mais...
Oui, 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 bien sûr. Non, mais David Kimmelfeld, puisque, bon, on parle de Georges Kepenekian, mais David Kimmelfeld avait demandé l'investiture de La République En Marche, quand même. Bon, elle a été donnée à Gérard Collomb, donc si David Kimmelfeld ne l'a pas, c'est uniquement parce que La République En Marche ne l'a pas voulu. Mais sinon, il aurait été le candidat officiel de La République En Marche. Donc ça veut dire quand même qu'il défend cette politique-là, qui est menée au niveau national avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui, comme au niveau local. Donc après, c'est une dissidence. Alors, je ne dis pas qu'il y a des différences qu'il n'y a pas des différences de sensibilité entre eux, etc. Mais après aussi, il y a une stratégie qui consiste à se démarquer. On est deux listes différentes, donc il faut se démarquer. Après, moi, je ne remets pas du tout en question, comment dire, la sincérité ou l'engagement de ce qui peut être dit par les candidats sur ces listes. Mais à un moment donné, il faut être cohérent.
Oui.
Voilà. Et je trouve que ce n'est absolument pas cohérent que les listes Respiration, elles défendent... Enfin, ce sont des élus sortants qui défendent des bilans qui, nous, ne nous conviennent pas, que justement on critique et qu'on voudrait mener des actions différentes pour donner une autre directive à ces projets. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de fusion d'alliance envisagée avec ces listes-là.
Par contre, en parlant d'alliance, vous faites liste commune avec le PS. Qu'est-ce que vous avez pensé au moment où vous avez appris que le PS allait faire partie, ou même a été vraiment un des créateurs, une des parties prenantes de la création de cette liste commune-là, alors même que Génération avait fait scission avec le PS à la suite des élections de 2017 pour des raisons fondamentales quand même.
Oui, oui, oui. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, on a confronté nos projets. Et parce qu'effectivement, oui, ça a été questionnant aussi pour une partie d'entre nous, notamment, de faire alliance avec un parti, effectivement, dont on est une dissidence, hein, en 2017. Mais on a confronté nos projets localement. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de points communs, beaucoup de manières de voir. On est d'accord sur le constat que Lyon a été... Alors, il y a eu un très fort développement, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais beaucoup pour la course au palmarès. Hein, voilà, c'est on attire les investisseurs, on attire les grandes entreprises, on attire les touristes qui ont un fort pouvoir d'achat, etc., etc. Le rayonnement de Lyon, mais finalement les habitants s'y retrouvent beaucoup moins. Enfin, comme je vous disais, ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à circuler. Quand vous habitez en dehors de Lyon et que vous voulez aller dans une autre commune de Lyon, c'est une galère, pas possible. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre voiture. C'est une ville qui a été pensée au fur et à mesure des années beaucoup plus pour l'extérieur que pour les habitants qui y vivent. Donc ça, c'est par exemple un constat sur lequel on se retrouvait complètement avec le Parti Socialiste. Et sur un certain nombre de mesures, de projets qu'on voudrait mettre en œuvre, on s'est retrouvés aussi. Donc moi, dans ces cas-là, je pense qu'il faut être vraiment pragmatique. On a une vision commune, on a des projets communs. Notre intérêt, c'est vraiment de s'unir pour pouvoir peser plus fort, pour mettre toutes nos forces ensemble. Eh bien, on y va.
Oui, c'est assez compréhensible au vu de l'historique que vous avez et de la similitude de vos programmes. Et de toute façon, ce sont des alliances qui sont mises en place un peu partout en France
tout à
maintenant.
Oui, tout à fait.
Même si on peut voir des fois des divergences quant à Génération qui s'est des fois alliée avec la France Insoumise, des fois avec les Verts.
Oui, oui, oui. Après, ben, y a des contextes locaux aussi. Voilà.
On peut prendre l'exemple de Grenoble, par exemple, qui a su fédérer un peu plus largement. Mmh. Et puis, on se rend compte finalement que c'est une histoire de fédération d'opinion.
Oui. Mais effectivement, nous, de toute façon, partout en France pour ces élections, on voulait de toute façon s'allier avec d'autres partis. Donc effectivement, le périmètre peut être un petit peu variable en fonction des villes. Les autres partis étaient dans la même dynamique. Je pense qu'on a vraiment tous tiré la leçon des européennes. On est tous partis en ordre dispersé, ce qu'on a été nombreux à regretter, en plus. Hein, même en tant que militants, nous, on l'a regretté. Et là, on s'est dit, on ne va pas encore refaire la même erreur. Et par rapport à la dynamique de campagne dont on parlait au début de l'entretien, ça, on voit bien que c'est quelque chose qui est accueilli très, très, très favorablement par les gens. Quand on leur dit, c'est la gauche unie, c'est le rassemblement des partis de gauche, bravo. on sent vraiment que c'est quelque chose qui est attendu par les gens de gauche, évidemment, les autres. Mais par les gens de gauche, ils sont contents de se dire, ça y est, enfin, vous arrêtez de faire n'importe quoi, de partir chacun dans votre coin, et vous êtes responsable et vous mettez de côté justement vos petites querelles de clochers, vos petites rancunes, à partir du moment, encore une fois, où les projets, les visions sont proches, sont compatibles, sont cohérentes, allons-y.
Ouais. Bah justement, pour revenir pour une dernière question sur les européennes, sur le parti qui était ressorti du lot à gauche, et encore c'est questionnable, c'était Europe Écologie Les Verts. Mmh. Ils avaient vraiment mis en avant dans leur programme le verdissement de plein d'aspects de la vie politique. Mmh. Puis vous-même, dans votre programme, vous prévoyez l'interdiction du diesel d'ici 2024 à Lyon. Je pense qu'en tant qu'électeur, la question que se posent les habitantes et habitants de Lyon, c'est la façon dont ce genre de mesures seront ancrées dans des propositions sociales.
Mmh.
Parce que, par exemple, l'utilisation de la voiture, on se pose toujours cette question. Parce que en interviewant des candidates et candidates de gauche, on a du mal à avoir des réponses claires sur le caractère ségrégatif de ce genre de mesures-là.
Oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Nous, notre projet, il repose sur trois piliers, le social, l'écologie, la démocratie. Et ces trois piliers, il n'y en a pas un qui est prioritaire par rapport aux autres. Les trois sont vraiment intrinsèquement liés. Et notamment par rapport à la transition écologique, si on veut la réussir, pour nous, c'est évident qu'il faut qu'elle s'accompagne de mesures sociales. Parce que sinon, c'est évident. Alors, vous prenez l'exemple, effectivement, de l'interdiction du diesel. Il faut un accompagnement à ça, un accompagnement financier. Ça, c'est évident, parce que sinon, qui va pouvoir respecter cette interdiction-là? C'est ceux qui ont les moyens de s'acheter le dernier SUV, le dernier machin, ce qui n'est pas du tout un progrès non plus en termes écologiques. Et évidemment qu'il faut que ça s'accompagne d'aides financières. C'est un peu l'exemple que je vous prenais tout à l'heure sur la rénovation énergétique des logements. Là, c'est pareil, on repose vraiment sur les deux pieds. C'est à la fois vous faites faire des économies aux gens et c'est bon pour l'environnement. Et vraiment, nous, ce qu'on veut défendre, c'est vraiment tout le temps les deux. Et en lien avec le pilier démocratique, puisque là, c'est la même. Ça rejoint. c'est la même dynamique, on va dire, c'est le même état d'esprit, c'est aussi travailler avec les gens. Nous, on veut vraiment réinstaurer des modes de travail avec les habitants, avec les associations, etc., beaucoup plus proches, en instaurant des budgets participatifs, des choses comme ça. Mais pour en revenir vraiment à votre question, par exemple sur la réduction de la voiture, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire offrir des alternatives. Parce qu'on ne va pas dire aux gens qui habitent dans un quartier qui est enclavé, qui est mal desservi, qui commencent à bosser à 4h du matin quand il n'y a pas encore de bus, etc. On ne va pas leur dire « Ah ben c'est pas bien, tu prends ta voiture, tu pollues, c'est pas bien, il faut faire autrement ». Ben non, il faut analyser quelles sont les contraintes exactement, il faut mettre les transports publics à niveau. Donc nous par exemple, au niveau de la métropole, on a un projet de création d'un métro circulaire aérien, donc qui ferait vraiment toute la périphérie de Lyon, périphérique ouest et périphérique est. Qui relierait donc les communes autour de Lyon entre elles et sans non plus toujours passer par Lyon pour éviter toujours cette hyper-centralité de Lyon. Bon, ça c'est un exemple, c'est le gros projet phare, mais on a plein d'autres projets pour améliorer la fréquence des bus dans certains quartiers, pour prolonger certaines lignes, etc. Améliorer aussi les pistes cyclables et faire des zones piétonnes. Voilà, donc déjà c'est, si on veut que les gens utilisent moins leur voiture, il faut leur donner la possibilité de pouvoir le faire. Leur offrir des alternatives. Et il ne faut pas être dans quelque chose de punitif, il faut être dans quelque chose d'incitatif. Et encore une fois, vraiment toujours dans cet accompagnement, dans cet accompagnement, mais je suis d'accord, il ne faut pas du tout que ce soit excluant, il ne faut pas du tout que ce soit discriminant pour les personnes qui ont le moins de moyens. Voilà.
Merci beaucoup Sylvie pour cet entretien.
Et ben, merci à vous.